RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le meilleur coach de France, on vous le lit toutes les semaines, Johan Durand qui est à mes côtés. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça va super, je suis toujours ravi de te retrouver pour
impeccable.
Des différentes thématiques autour du
on
running,
se régale.
Des invités, des personnages. Et votre fidélité surtout, merci à tous, le nombre d'écoutes est en train d'exploser, donc continuez de nous écouter sur Apple, Spotify et Deezer, les applis d'RMC, et de nous suivre sur Instagram et sur Strava notamment. Je suis un peu ému parce que mes deux vies vont se réunir aujourd'hui. Eh oui, le foot et le running,
et
parce
le running.
Qu'on va accueillir dans un instant le grand, le seul, l'unique Steve Savidan, international français de foot, avec un gros parcours professionnel, une sélection en équipe de France, une reconversion réussie. On va en parler dans un instant parce que Steve est devenu coach mental et justement, il va pouvoir vous donner les clés pour gérer la pression avant les compétitions, parce que forcément, on est tous concernés. Lorsqu'on s'élance sur un 10K, un semi ou un marathon, on est toujours tendu. Quels sont les bons réflexes à adopter pour bien aborder les compétitions? On pourra en parler avec Steve. Dans une seconde, on aura également un bon plan d'ossard à vous faire gagner, une course parisienne à la fin du mois de mai, à la fin de l'épisode. Donc restez à l'écoute, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Il est là mon Steve Savidan, alors comment ça va?
Salut. Salut. Ah ben. Ça va impeccable. Bon, impeccable. Hein,
content de te voir.
Voilà. Pareil, on se suit, j'allais dire on est comme un peu dans les courses à pied, on se renifle et puis on arrive toujours à se réunir.
On s'engueule dans Rotten sans fin, puis on se retrouve aujourd'hui.
Vous voyez ici.
Exactement. Ça, exactement. Steve, je suis ravi de te recevoir. Quel est ton rapport avec la course à pied avant d'entrer dans le vif du sujet et revenir un peu sur ta...
Ah, la course à pied. Alors déjà, ça fait très longtemps que je cours.
Ouais.
Le problème, c'est que je courais derrière un ballon et comme je le touchais pas souvent, bah donc je me suis dit bah tiens, je vais peut-être apprendre à courir. Je vais développer ma VMA qui est l'un de mes points forts.
Bah oui.
Je suis arrivé jusqu'à la fin de ma carrière à 21,5 quand même.
Ah ouais, ouais.
Donc pas forcément avec une hygiène de vie exemplaire, mais comme quoi quelque part il y a peut-être un aspect mental en fait qui se débloque. Et moi, courir, voilà, ça a toujours été mon truc. Et comme je dis très souvent aux jeunes footballeurs, avant d'être footballeur professionnel, il faut d'abord être un sportif de haut niveau. Aimer tous les sports. Et quand on voit les stats, alors je fais un petit parallèle sur le foot. Sur un match de 90 minutes, on touche le ballon 2,5-3 minutes. Reste du temps, on court.
Bien sûr. Bah, t'as raison. Quand on dit comme ça, ça fait peur, mais c'est vrai que ça prouve que c'est...
Donc, il faut être efficace sur les 3 minutes.
Exactement. Yodu, toi, t'es un fan de foot. T'as longtemps suivi la Ligue 1, tu continues de la suivre. Steve Savidan, ça te parle, forcément. Les buts...
Je suis plus, puisque je suis supporter des Girondins. Donc là, je suis à fond National 2.
T'inquiète pas, je les commente le week-end. C'est sympa. Saint-Malo, c'était sympa.
Exactement.
Saint-Malo, bon...
Non, mais Steve Savidan, ça te parle, forcément.
Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Et puis, en plus, moi, je m'entraînais pas mal... Enfin, je vis un peu aussi sur le bassin d'Arcachon, donc je sais qu'il avait il a aussi coaché le club à Arcachon à un moment donné, comme JPP. Donc voilà, et oui, effectivement, Steve, forcément, on le connaît en tant qu'amateur de foot. Mais je ne connaissais pas effectivement son goût pour la course à pied, pour la prépa physique en général. Et ça fait plaisir à entendre, parce que c'est vrai que le foot, pour les gens de l'extérieur, et encore plus quand c'est des 100% runners qui parlent de foot, ils se disent ouais, bon ben voilà, ils courent un peu, mais bon, ils font que
du mépris, du petit
du gris-gris, et après ils se roulent par terre, et puis voilà, c'est pas vraiment c'est pas de la course. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui aimait la course et qui aime le running, quoi.
Non, mais surtout Steve, c'est un exemple de résilience. Nous, c'est vrai qu'on le chambre pas mal dans Rotten sans fin, mais Steve il a connu toutes les divisions en France, il s'est retrouvé en Ligue 1, il est devenu ultra performant et ça l'a même mené jusqu'à l'équipe de France. Sur une sélection le 19 novembre 2008 face à l'Uruguay. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, Steve, que tu sois dans une reconversion à travers le coaching mental, parce que toi,
ça m'a étonné.
Ouais, mais tu en as bavé quand même. Enfin, peut-être que c'était inné, mais en tout cas, tu en as bavé et tu as connu plein d'épreuves dans ta carrière quand même.
En fait, le déclencheur, c'est des discussions avec Antoine Camboire que j'ai eues longtemps après, parce qu'il m'a accompagné surtout. Il m'a accompagné sur l'après-carrière. Il m'a emmené au golf. Par exemple, il m'avait fait découvrir le golf.
Ouais, d'accord.
Pourquoi ? Parce que c'était après mon arrêt de carrière pour problème cardiaque.
Oui, alors Monaco. Ça aussi, on peut le préciser, ceux qui ne sont pas fans de foot.
Voilà.
Toi, tu as une grosse carrière sur le tard. Sur un été, tu dois signer à l'AS Monaco, qui est un grand club français.
Ouais.
Et malheureusement, tu es recalé à la visite médicale.
Je suis recalé à la visite médicale pour une DVDA, donc une dysplasie ventriculaire arythmogène, donc qui est un grossissement d'une partie du cœur. Voilà. Bon, qui n'a pas de grosses conséquences sur la vie du quotidien pour un sédentaire. Mais pour les sportifs de haut niveau, bon, ça bloque. moi qui fais partie des premiers caucasiens à qui ça arrive, et en plus j'arrive à Monaco, qui a été par le professeur Grinaldi, qui a découvert cette maladie, bon forcément il y a un petit blocage.
Ouais. Donc là moralement, arrêt subi de ta carrière.
En 30 secondes.
Ah ouais, c'est fou.
En 30 secondes, on te dit stop pour la compétition de haut niveau. Donc moi je switch très rapidement, honnêtement je switch en à peine 5 minutes. La priorité, c'était, on était le jour de mon anniversaire, donc le 29-30 juin, et je regarde mon épouse et je lui dis, on va habiter où ? On a un commerce à Valenciennes, on a une maison, on est à Caen, et j'ai potentiellement mon contrat encore à Caen. On est tous les deux originaires d'Angers, et nos enfants, on se dit, la rentrée scolaire, c'est début septembre. Et ma priorité, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Et j'ai switché très rapidement, et à chaque fois, j'en parle tout le temps de mon le docteur Koenz, qui était le docteur de Monaco à l'époque. Et il me dit, franchement, Steve, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui switch aussi rapidement. Et je lui dis, je pensais que tu allais m'annoncer quelque chose de plus grave.
Pourquoi ? Parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal ?
Quand il m'a dit stop, j'ai eu la réaction de me dire, je pensais que tu allais me dire quelque chose de plus grave que d'arrêter le foot.
Genre c'est une maladie, un truc ?
Une maladie incurable, ce qui arrive souvent dans la vie. Ah ouais. Je le souhaite pas à personne, mais même pour moi. Mais je me dis, j'arrête simplement le foot. Ouais. Tu vois, je switch. Et donc derrière, bon, je passe un été à larver, parce qu'en plus j'avais un traitement médical, donc je passe un week-end à larver, à profiter de mes potes. Ça faisait peut-être 15 ans que je n'avais pas profité d'un été juillet-août.
Ouais, bah
c'est con, mais on en parle pas.
Normalement, tu es en prépa.
Bah, la DSP et les coronas et la saucisse merguez, tu ne la vois pas trop à ce moment-là. Tu vois tes potes à boire la piscine ou qui viennent te rendre visite.
Ouais, c'est ça.
Bon bref, je passe l'été. Ma femme me donne rendez-vous le 4 septembre en emmenant les enfants à l'école. Elle me dit, toi, ça serait bien que tu rentres aussi. Et là, j'appelle Doc à Monaco et je lui dis, bon, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que là, j'ai un traitement médical, j'ai des bêta-bloquants qui sont assez forts et je commence à devenir un peu taré.
Ah, oula. Ça vient de là, alors ?
Ouais. Non, je l'étais déjà. J'avais un terreau. Ouais. Et je lui dis un truc, j'en ai jamais réellement parlé. Dans tous les podcasts que j'ai fait, de cette période, j'en ai rarement parlé. Ouais. Et derrière, je suis un peu ouf. Je commence à prendre du poids, donc t'as l'ego, t'as tout ça qui se transforme, t'as plus trop de reconnaissance, même si je bossais un peu à la télé, mais t'as plus de timing, t'as plus de calendrier, t'as plus rien.
Mais et dans le mauvais sens.
Ah ouais, tu es en bad trip, tu commences à tomber un peu en bad trip. Le regard de ta famille, tu vois, très rapidement, ça switch, t'es plus pratiquement le centre.
Bah oui, bien sûr.
Et bon, j'arrête mon traitement. Et en fait, je parcourir à l'étang Saint-Nicolas à Angers, et je parcourir. Et je me rappellerai exactement l'heure, tout ce qui se passe autour, toi, tout ce qui est sensoriel, visuel, tout. Je m'arrête. Et je m'arrête en me disant, je vais faire un pas de trop, je vais tomber. C'est un truc de dingue. Et là, je reviens chez moi en marchant, en chialant. Franchement, je reviens. Et je me dis, mais t'es plus bon à rien. Toi, même le sport, tu peux plus en faire. T'as plus rien, t'as plus d'objectif, plus rien. Et donc, j'arrête mon traitement. Je me remets en dynamique. Toi, au niveau du boulot, je refais attention aussi aux autres, à ma femme, aux enfants, à mes amis, à ma famille et tout. Et je refais attention à moi. Et je reprends très tranquillement. Jusqu'au jour où je me redonne rendez-vous à ce même endroit. À ce même endroit, j'y vais en marchant. Et j'y vais en marchant. Et je le dis souvent quand j'interviens en conférence. Et je dis, cette ligne-là, je ne ferai plus jamais demi-tour dans ma vie. Alors souvent, on se croise très souvent, Ben.
Ouais.
Souvent, on sent mon côté excessif, ma côté de folie. Mais en fait, mais moi, je m'en bats complètement les couilles, les gars. Vous n'avez pas compris. Moi, j'ai passé cette ligne, je ne ferai plus jamais marche en arrière.
Ouais.
C'est-à-dire, le jugement des autres s'arrêtera à partir du moment où je ferai du mal à ma famille. Tu vois, où je serai déplaçant envers ma famille, où je ne serai pas...
Mais c'est quoi ? C'est un travail d'introspection, en fait
Bah, t'es pas loin, tu sais, on en parle souvent, tu sais, les burn-out, les santé mentale, depuis le Covid, ça devient assez régulier.
C'est une vie de footballeur de très haut
niveau.
Ouais,
voilà, j'avais pas fait le deuil, je voulais pas en faire, je sais pas s'il faut en faire, je sais pas si je peux m'accepter, je sais pas si je suis capable de faire autre chose.
Ouais.
Et je me dis, tu sais quoi, j'ai toujours été capable de faire du sport, et bah là, je vais en faire. Et c'est là, en fait, où je pars dans le running, en fait, pleine balle.
D'accord.
Je pars dans le running, c'est-à-dire que je vais en déplacement pro, j'emmène mes baskets, je deviens complètement fondu, mais je deviens pas fondu de la compète.
Non,
j'ai jamais pris un dossard.
Ouais, c'est l'effort physique.
C'est vraiment le truc de me dire, ça va me faire du bien, je mets ma musique, je suis tout seul, je me dans mon délire, je vais découvrir des paysages extraordinaires, je vais ressentir des sensations un petit peu, naturelles, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, je me revois partir Bordeaux-Montpellier sur la route, bah, je m'arrête et puis je me dis, bah, tu sais quoi, là, je vais courir. Et j'arrive au rendez-vous, 2 heures plus tard, je reprends la bagnole et tout, je suis en nage, je suis crado, parce que je me suis cassé la gueule. Et je dis, bah, excuse-moi, t'aurais pas une douche ou on fait le rendez-vous comme ça, quoi, t'emmerdes pas, quoi.
Ça, c'est mon Stevie, tu vois. Tu vois le personnage qu'on reçoit aujourd'hui, Yodu. Et alors, pourquoi le coaching mental,
courant,
alors ? Comment t'en es venu à ça, alors ?
Bah, moi, j'ai vécu le Covid. Alors, déjà, le coaching mental, si tu veux, j'ai toujours su qu'il se passait quelque chose. Voilà, j'ai jamais réussi à l'expliquer. J'ai toujours pensé que c'était ou que à grâce ou à cause de mon enfance, pas forcément facile. Voilà. Et en fait, à force de chercher, je me suis enfin posé pendant le Covid, parce que moi, ça a été une révélation le Covid. C'était enfin là où je pouvais me poser et ne rien faire. Ouais. Comme vous savez, je suis un peu une pile électrique. Donc là, je n'avais pas le choix. J'ai fait des séances de sport sur les matins, sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, tous les matins pendant 170 jours. C'était génial. Et puis, je me suis dit, mais tu sais quoi, c'est peut-être le temps que je me pose, que je réfléchisse et que je me forme, parce que je sens que je suis fait pour ça. Et donc, je me forme. Je passe tous mes examens. J'arrive en fin de Covid. Et je n'ai pas vraiment de boulot. Tu vois, moi, je suis indépendant. Donc, pendant le Covid, toi, tu n'étais pas trop accompagné financièrement par l'État. Hein, pas, c'est comme ça. Et je me dis, mais je vais y aller à fond là-dedans. Je vais commencer à construire mon truc. Et ça s'oriente plus vers les entreprises. Tu vois, j'ai énormément de demandes au niveau des entreprises donc qui sont liées, en tout cas, entre ce que j'ai vécu et mon expérience de footballeur.
Ouais.
Et moi, je fais très rapidement le passage entre ce que ça m'a permis de débloquer mentalement et ce qui est applicable en entreprise.
Ouais, d'accord.
Et là, j'arrive, je fais des séminaires, j'en fais encore, hein, j'en ai à peu près 2 ou 3 par mois là-dessus, sur les managers, sur les gestions d'équipe, gestion des égos, gestion du stress, de, bon bref.
Tout ce que tu retrouves dans la vestiaire de foot.
Exactement. Ouais. Et dans le sport de haut niveau, ou dans tous les sports de haut niveau. L'individualisme, par exemple, on va en parler sur le running, tu vois, se programmer tout seul, bon, c'est complexe, tu vois. Et puis bah, après, bah, je me dis, mais en fait, je vais aller dans le sport. Bien sûr que je vais aller dans le sport. Et là, il y a un mur. Parce que je vais dans un sport. Je me dis, je vais dans le foot. Et je te dis, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Le foot
est fermé.
Est fermé, ouais. Mais hermétique à ça.
À la et préparation j'ai essayé... mentale, à tout mais ça.
Il n'y en a pas du tout.
Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. C'est pour ça que j'allais reprendre en plus. C'est que c'est à la marge.
Ouais.
Et moi, j'ai travaillé avec le rugby.
Ouais.
Toi, j'ai travaillé avec Mathieu Jalibert. J'ai travaillé avec des joueurs de l'UBB. J'ai travaillé aussi avec des mecs de Perpignan. J'ai travaillé avec des mecs de Toulon. OK. Mais j'ai travaillé avec du tennis, j'ai travaillé avec du golf, des runners, super. Et dans mon sport de prédilection, je sens qu'il y a, il y a vraiment une barrière. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était moi la barrière, le blocage, ou le milieu.
Ouais.
Et je vois Olivier Magne, rugbyman, qui va à Lyon.
Exactement, c'est voilà. Bien de se signer. Ouais. Tu avais un de rugby voilà. Qui a intégré l'Olympique Lyonnais.
Très bien, très bien. Mais Lyon ne faisait pas partie des clubs bloqués, comme Paris. Je vais en citer peut-être d'autres autres, comme Bordeaux, par exemple.
Ouais.
Bordeaux, moi, je sais que mon fils était en jeune. Ils avaient quelqu'un qui était sur la préparation mentale des jeunes, du centre de formation et des professionnels. Et en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un tel blocage ? Mais moi qui fais mes formations diplômantes et d'État dans le football, mais j'ai compris. Mais ça y est, j'ai compris. J'ai interrogé plein de potes qui sont entraîneurs. C'est qu'en fait, dans le football, on délègue la compétence mentale à l'entraîneur.
L'entraîneur.
Ouais, c'est l'entraîneur qui est le coach mental.
Exactement.
Ouais.
Et c'est un peu un managérial, je ne vais pas dire à la papa, mais vraiment descendant des années 80, 90, ouais. Très directif, et je le vois en centre de formation. C'est pareil.
Ouais.
Alors quand je dis c'est pareil, bien sûr, sur 100% des clubs, il va y en avoir 10% qui vont travailler différemment.
Ouais.
Je ne vais pas dire mieux, moins bien en fonction des résultats, parce qu'en plus, la préparation mentale, ça n'a rien à voir avec le résultat.
Non, non, bien sûr.
C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Mais par contre, ça t'amène à tendre au résultat.
Ouais, c'est une aide.
C'est une aide, c'est un accompagnement parallèle, voire interne, qu'il faut absolument avoir.
Ouais.
Moi, je ne comprends même pas, et aujourd'hui, je ne milite même pas pour mon boulot, moi, personnel. Mais je milite surtout pour un confort de travail des entraîneurs.
Oui, parce que ce n'est pas à eux d'assumer cette tâche-là. Mais d'ailleurs, on le voit avec des staffs hyper professionnalisés. Moi, je pense au Paris Saint-Germain, où il y a un psychologue, un manager, un team manager qui est là.
Alors attention, pour moi, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, il y a 2 métiers. Il y a la psychologie et la préparation mentale.
La préparation mentale.
Pour moi, la préparation, la psychologie, c'est on se prend un instant T et c'est tout ce qui se passe avant. Donc là, on va remédier à des problèmes d'enfance, bon, pas forcément des problèmes, hein, mais tout ce qui s'est passé avant.
Ouais.
Et la préparation mentale ne fait pas fi de ça. Mais elle prend l'instant T et elle dit voilà.
Comment on va se projeter ?
comment on se projette. Et donc là, on parle des trois temps, hein, court, moyen, long terme. Et là, on va se projeter. Les objectifs, hein, ce qui ne résolvera pas les problèmes internes d'enfance et tout ça, c'est deux métiers totalement différents. Ouais. Et moi, je m'arrête toujours, quand je suis en préparation mentale avec un sportif ou éventuellement avec quelqu'un qui est dans le managérial, qui est dans une entreprise, je m'arrête toujours au moment où ça commence à parler du personnel. Parce que ce n'est pas de ma compétence.
Ouais. Tu ne rentres pas dans ce domaine-là.
Ah non, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas, je n'ai pas la légitimité, pas la crédibilité. Et je sais que je serai trop en porte-à-faux. Ouais. C'est trop compliqué.
Alors explique-moi comment tu accompagnes un runner concrètement. Parce que nous, c'est notre cœur de cible. RMC Running, on s'adresse à
ouais, quand
des,
même.
Milliers, des milliers de runners.
Millions.
Comment tu les... Millions.
Millions, il y a 70 oui. millions de runners en France.
Eh voilà. Ils nous écoutent tous en plus.
Bah j'espère. Bah, à partir de demain, j'espère.
Tout l'audience.
Et là, parce qu'en fait, alors tu vois, c'est un truc tout bête. Le running, c'est une grande particularité, c'est que tout le monde court.
C'est vrai.
Tout le monde court. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur le territoire français qui ne court pas. Tout à l'heure, j'ai pris le métro, quelqu'un courait. Il était en costard-cravate. J'avais une personne qui avait un.
Ah, il était en retard, lui.
Bah, ouais. Oui, bah, non, mais tu te rends compte qu'en fait. Et tu vois, ça va être très important parce qu'on va rejoindre la préparation mentale sur les objectifs. Souvent, on te dit, mais non, mais ça, je ne peux pas courir. Mais ça dépend de ton objectif. Parce que si tu es en retard pour ton TGV pour aller voir ta grand-mère. Et tu sais que c'est oui. ultra important, et bah, tu sais quoi, les deux bornes, tu vas les faire en courant.
Tu vas te forcer.
Et tu vois ouais. ce que je veux dire, c'est là en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, tu as 70 millions de runners en France. Ouais. Marcheurs, runners.
Ouais.
En fait, c'est une question d'activation. Et c'est pour ça que je vais revenir sur comment préparer un runner, mais c'est déjà comment le préparer lui en amont de ce qu'il va faire.
Ouais.
Donc, tu as toute une programmation, mais comme n'importe quel sportif, parce que ça, c'est pas vraiment personnalisé ou personnifié au running, c'est dans tous les sports. C'est la préparation, c'est l'avant. Tu as l'avant, pendant et après, on le parle très souvent. Et quand tu es dans un cycle, le avant, pendant et après, le après n'existe plus. Parce que le après devient déjà le avant.
Oula.
T'as compris ou pas ?
Ça y est, m'a perdu.
J'ai perdu.
Ouais, c'est...
En fait, dans le cycle de performance, donc là, on parle de performance.
Oui, une fois que tu es engagé dans un processus avec
dès
un
que
objectif,
fini
tu
le pendant,
penses pas à l'après objectif.
En fait, le pendant, une fois que tu es sorti du pendant de ta course, t'es déjà sur le avant de quelque chose d'autre.
Ah, parce que t'enchaînes les objectifs.
Eh oui.
Eh oui, d'accord.
T'as compris ?
Il est brillant, ce Steve Savidan.
Incroyable. Dani.
Ouais. Alors justement, allons-y sur la thématique du jour, parce que Johan, nous, on en parle souvent de ces problématiques-là. Ce fameux stress de compétition. Comment gérer le stress du jour de la compète ? On s'est préparé, ça s'est plus ou moins bien passé. Quels sont les conseils déjà que Steve peut donner ? Toi, tu vas pouvoir apporter ton regard de coach de running aussi. Mais...
Bah non, mais j'ai bien envie de discuter.
Bah vas-y, Odu, vas-y, comment ?
J'ai beaucoup parlé en fait.
Ouais, Johan, vas-y.
Non, non. Moi, je suis
les principaux conseils pour accompagner quelqu'un qui prépare
avec une compète. Avec Steve, sur la prépa mentale, c'est vrai qu'on en a fait quelques épisodes, mais. Mmh. Pour moi, c'est quand même, c'est un peu comme un muscle, hein, le cerveau. Il faut l'entraîner à quelque chose pour être plus performant, plus confiant, plus serein. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est si tu veux performer ou si tu veux réussir tes objectifs et gérer cette pression à la compétition, il faut que tu arrives bien préparé. Ça, c'est le rôle, effectivement, de l'entraîneur qui va te faire un plan d'entraînement régulier. Tu vas travailler tes allures, tu vas tester ton matériel avant ton marathon, tu vas tester ta nutrition et tout ça. Ça, c'est le rôle un peu du coach. Mais après, tout ce qui est dans des objectifs, des choses que le coach, lui, ne maîtrise pas, à savoir bah, ta perception face au stress, ta capacité à bien utiliser ta respiration, à te concentrer sur le moment présent et tout ça. Et effectivement, le travail de visualisation qui est très important avant la course et pendant la course avec cette visualisation positive qu'on parle assez souvent. Et ça, c'est vrai que c'est le prépa mental. Ou alors après, moi, je sais que j'ai jamais eu affaire à un prépa mental parce que j'arrivais toujours à trouver les leviers nécessaires personnellement. Mais ça, c'est quelque chose que si tu l'as pas en toi, effectivement, être aidé et être accompagné, c'est super important, ouais.
Ouais, la visualisation, ça fait partie de ton boulot, c'est important, c'est crucial même quand
alors,
tu prépares un objectif.
Je vais vous dire quelque chose, la visualisation, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien sûr des gens beaucoup plus intelligents que nous, tous réunis.
Ouais.
En fait, il y a des neurosciences, alors attention, on va sortir les gros mots,
okay.
C'est qu'on s'est vraiment rendu compte, alors on s'est rendu compte, ils se sont rendu compte qu'on apprenait aussi bien en regardant qu'en faisant. Et voilà, c'est okay. Un truc de fou.
Ouais.
Et que pour tu ça prennes... que j'apprends pas, je regarde.
Et que tu prennes n'importe quel sport. Tu prends n'importe quel sport, quand tu fais de la visualisation de n'importe quel sport dans le côté positif, la bonne technique, et ben en fait, tu habitues ton cerveau à l'exécution du geste parfait. Je vais prendre des exemples qui sont bateaux, mais c'est ça. Le bobsleigh, la visualisation de la belle courbe, la descente de ski, tous ces gestes, on les voit. Ouais. On les voit à la télé.
Les skieurs, on les avait aux Jeux
Olympiques. Et on les voit et on se dit tellement qu'on est teubés, on se dit, non mais qu'est-ce qu'ils font? Non mais en fait, vous n'avez pas compris. Ils visualisent la meilleure des courbes. Ouais. Et là, je vais revenir à ce qu'on disait juste avant. C'est ce qui est de l'ordre du maîtrisable et du non maîtrisable. Donc le maîtrisable, c'est la descente parfaite, la trajectoire, la foulée parfaite, la course parfaite parce que j'ai visualisé le parcours, je suis parti sur un 42, je suis parti sur un 10 ou peu importe, ou un trail, je visualise ce qui est maîtrisable, ce que je peux le plus emmagasiner dans mon cerveau, en vitesse accélérée, je vais essayer de percevoir, c'est pour ça que les reconnaissances c'est très important quand on va faire du
reconnaître
running.
Reconnaître le parcours.
Voilà, reconnaître le parcours ou s'inspirer, tu peux aller aujourd'hui maintenant sur Google, tu fais un Google Map, tu peux visualiser ton parcours, voilà. Mais tu vas visualiser le parcours, ce qui est maîtrisable. Donc tu vas te mettre aussi dans des sensations, c'est-à-dire la saisonnalité, l'heure à laquelle tu vas courir, parce que ça aura une grande importance sur ta préparation. Donc en fait, la visualisation te permet de te mettre dans la trajectoire la plus parfaite. Un footballeur, il va visualiser, tu en parles avec JPP, tu m'en parles avec moi, les plus grands buteurs.
Avec Balerdi hier soir sur le péno, il a visualisé.
Eh bien, tu vois, par exemple, ça, alors ça, on va en parler tout à l'heure sur la pression.
Grand antenne sans flamme.
Ouais. Mais on pourra en parler aussi là. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc la visualisation, tu te mets dans la meilleure des positions pour exécuter. Et donc, tu vas arriver à un moment où quand tu vas être à la course, tu auras déjà une sensation de repère, donc sur ce qui est le maîtrisable. Et après, tu auras ce que tu ne pourras pas maîtriser. Ça va être...
Les facteurs extérieurs, une bousculade, un truc.
Une bousculade, un trou, le vent, la pluie, tu t'es mal préparé ou un truc comme ça. Donc en fait, il faut, et la préparation mentale te permet, alors c'est sur la visualisation particulièrement, te permet les meilleures conditions. Mais tu peux très bien te mettre dans les meilleures conditions, par exemple, un temps de merde. Tu peux très bien avoir visualisé un mois d'octobre, un mois de novembre.
Mais concrètement, qu'est-ce que tu conseilles? C'est un travail personnel. On ferme les yeux, on se projette, on regarde des vidéos de parcours.
Déjà, tout ce travail de recherche, tout ce travail de recherche te prépare à...
Ouais, ça fait partie de la prépa.
Ah ben oui, mais tout ça... Mais, tu sais, c'est con, mais bon, il n'y a pas de grande guerre sans bonne préparation. Tu vois, c'est ça. Et la performance, c'est la guerre. C'est-à-dire que tu dois aller à un moment donné où tu dois préparer, tu dois être dans le plus fin des détails. Et ça ne va pas forcément t'amener au meilleur des résultats. Mais en tout cas, tu vas peut-être avoir les meilleures sensations. Peut-être que tu ne vas pas faire le chrono que tu voulais faire. Mais par contre, c'est là où on va être sur le ressenti. Par contre, c'est la meilleure des courses que tu as ressenties.
Mais alors là, il y a deux aspects intéressants.
C'est les paradoxes.
Et je pense que c'est déjà relativisé, parce qu'on s'adresse à des millions de coureurs amateurs et on est tous concernés. Donc c'est vrai qu'il faut toujours relativiser l'aspect chrono. On peut être déçu de ce qu'on a fait, mais aussi, il y a, comme tu dis, il y a l'expérience et le ressenti.
Des objectifs réalistes.
Exactement.
Ça, c'est sûr.
Et dans ce que vous dites, au-delà de la visualisation, il y a le fait de, le jour d'une course, limiter le nombre d'incertitudes. C'est-à-dire,
c'est ça.
Quand on est organisé, toute la logistique est prête, vous savez quelle tenue vous allez mettre, vous savez exactement ce que vous allez faire, ce que vous allez déjeuner, comment vous allez arriver sur la ligne de départ. Ouais. Quand les incertitudes sont limitées au maximum, on arrive déjà beaucoup plus sereinement au point de départ.
Bah, t'arrives serein, en fait. En fait, tu te dis, quoi qu'il se passe, j'ai fait mon travail.
Exactement.
Et la préparation mentale fait partie de tous ces détails, en fait. Tous ces détails. Donc, moi, la personne qui me dit, je me suis pas assez... Tu vois, on s'est mal préparé. Donc là, on va revenir aux émissions qu'on fait pratiquement quotidiennement chez Rotten sans flamme. On s'est mal préparé. Mais comment ça, tu t'es mal préparé? Ah oui, mais on s'est mal entraîné. Oui, l'entraînement visible, invisible, mental, collectif, individuel. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le réel bordel dans ce club-là. En fait, vous pensez que ce qui est visible, eh ben, ça va que vous emmener au résultat que vous pensez ou que vous espérez. Mais en fait, et là je vais revenir sur le running ou sur le foot comme vous voulez, 80% du temps tu le passes à l'entraînement. 80% du temps dans une semaine tu le passes à l'entraînement. Tu veux faire une course le week-end, tu veux faire un 10 km par exemple dimanche, il faut savoir que tu vas courir 80% de ton temps, tu vas le courir à l'entraînement.
C'est-à-dire
bah par exemple tu veux courir dimanche.
Ouais.
Tu vas faire 2-3 sorties dans la semaine.
Ouais.
Bah 2-3 sorties, ça équivaut à 20 bornes. allez, 21 ouais. bornes.
Ah, tu veux dire que la distance, elle est couverte dans la semaine dans tes entraînements?
Ah bah oui.
Quoi, c'est ça, ouais, bien sûr.
Un entraînement, tu joues le samedi, tu t'es entraîné 5-6 fois.
Oui, voilà, c'est ça.
80% du temps, tu le passes en entraînement.
Ouais.
Donc si on
donc
revient...
Donc si tu mets pas de qualité à l'entraînement, si tu mets pas de l'investissement, de l'implication...
L'exigence.
Ouais, bien sûr.
Donc en fait, on revient toujours à cette phrase que je pense que tous les jeunes qui sont nés après 2000 l'ont pas entendu ou n'ont pas voulu l'entendre. Je vais vous le dire encore une fois... Tu joues comme tu t'entraînes.
Et ouais, ça, ou alors,
tu cours comme tu t'entraînes.
Ou entraînement dur, course facile. C'est ce qui
ouais.
est, c'était la phrase
ouais.
qui sortait
et
souvent.
Exactement.
Ouais.
Et après, tu peux avoir la sensation, t'es béni des dieux, t'es arrivé, tu t'es pas entraîné depuis 4 mois,
ouais.
t'as pas couru, t'as rien foutu.
Ouais,
et
ça,
t'arrives et tu te dis, oh là là, tu sais quoi, ils m'ont inscrit sur le 42 du Médoc, bah, tu sais quoi, je vais y aller déguisé. Et je vais le finir. Ouais, en fait, par contre, tu fais plus rien pendant 6 mois.
Ah bah ça c'est sûr. Tu le payes après. Ça, c'est sûr que tu le payes. Mais Johan, toi qui as été athlète de haut niveau, ces routines-là que tu mettais en place, ça t'a aidé comme ça à aller chercher des gros chronos et des gros objectifs?
Ouais, c'est vrai que bah, ce que dit Steve, moi je l'avais, je sais pas où j'avais chopé cette citation, mais je l'avais mis dans mon mur d'entraînement, là où je venais chercher mes baskets tous les matins. Il y avait écrit une des clés de la réussite, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation, tu vois.
Ouais, c'est parce que tu regardes trop Fort Boyard, toi.
Ouais, ça, c'est ça. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que tu pouvais pas laisser des trucs au hasard. Moi, je suis arrivé un peu par hasard en course à pied parce qu'après, avant, je jouais au foot et voilà, j'ai eu des prédispositions
ouais,
pour la
compris.
Course. Et je me suis rendu compte que non, tu pouvais pas, t'avais pas le droit de pas aller repérer un cross. Tu ne devais pas ne pas connaître le parcours sur le bout des doigts. Il y a des mecs avec qui je participais. Il savait pas s'il faisait deux grandes boucles, une moyenne boucle, ouais. une petite boucle. Il connaissait pas le parcours, il partait et puis il courait comme ça. Mais c'est impossible. Et c'est d'autant plus vrai plus tu allonges les distances. C'est-à-dire qu'un 10K, effectivement, bon, si t'as pas testé ton alimentation, ta nutrition, même si tu mets des chaussures neuves, bon, effectivement, tu vas couiner les jours.
Ouais.
Les jours après, mais c'est moins grave que sur un marathon. Un marathon, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit de ne pas tester à l'entraînement. Et effectivement, cette préparation pour ta tête et pour te sentir bien, il faut vraiment diminuer tout ça de façon le plus possible. Et c'est vrai que et en plus, c'est des choses qui sont simples à mettre en place, hein, à savoir à faire des repérages, à faire cette visualisation ou à faire ses entraînements sur ses bonnes allures, et à mettre effectivement de l'application dans ce qu'on fait. C'est pas très compliqué. Et le jour de la course, effectivement, quand tu es préparé, tu arrives en te disant quand même, tu arrives un peu plus gaillard, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie de l'entraînement et c'est ça qu'on néglige souvent. C'est tout ce travail préparatoire. À côté du fait qu'on met les baskets et on va courir sur piste ou sur route, Steve, ça fait partie de la prépa, comme ça, de regarder, repérer le parcours, tout organiser.
Mais
voilà.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance, ce n'est pas une question de sportif de haut niveau. La performance commence à partir du moment où tu fais,
ouais.
où tu es en action.
Ouais.
À chaque fois que tu fais quelque chose sportif, ou voilà, tu es dans de la performance.
Ouais.
Tu es de la performance contre toi, contre quelqu'un d'autre, tu as toujours soit un adversaire, ou même toi d'hier,
ouais.
parce que tu veux peut-être faire mieux,
exactement.
Ou différemment, tu veux être un peu plus à l'aise, tu veux prendre un peu plus de plaisir, tu veux perdre du poids, tu veux arrêter de fumer, tout, en fait, tout est une question de performance. Et ça va être à quel niveau tu es prêt à t'engager.
Exactement.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ouais.
Je vais pas dire les sacrifices, toi, je vais plutôt prendre l'engagement.
Ouais.
À quel niveau tu es prêt à t'engager. Donc, si tu es prêt à faire ça et avec un pacte avec toi-même, parce que tu ne peux pas tricher contre toi-même, tu vas te mentir. Et là, on va arriver sur la confiance en soi, la connaissance de soi. Donc, si tu commences à te mentir envers toi-même et que tu ne respectes pas, que tu négocies pas avec toi-même,
ouais.
parce que la négociation est très importante envers soi-même. Et ça, c'est très important pour les runners.
Mais tu sais que...
Négocier avec soi-même.
Je trouve ça très intéressant tout ce que tu dis. Et je
trouve que c'est plus intéressant
dans
RMC Running.
Je te trouve bien meilleur dans RMC Running que dans un exemple. C'est flippant, ça fait peur.
Et c'est cadeau, hein. Ouais, c'est pour moi.
Là, c'est gratos en plus.
Et par contre, moi je peux te dire un truc, c'est que quand t'as mis des choses en place et que derrière ça se passe mal, l'échec tu le vis mieux.
Ça c'est vrai.
C'est-à-dire que moi je sais que par exemple pour les Jeux Olympiques à Paris, pour me qualifier pour les Jeux sur le marathon, j'étais parti 150 jours en altitude à Font-Romeu où j'avais une vie de moine et où j'ai tout fait bien.
Ouais,
mais le marathon ça s'est mal passé, j'ai pas réussi. Mais je m'en veux pas parce que je sais que j'ai tout fait pour y arriver.
Ouais,
après
ouais.
J'étais peut-être j'étais trop vieux machin truc.
Mais c'était
je suis pas arrivé.
Ton plafond de verre.
Mais voilà, c'est ça, c'est mon plafond de verre. J'y suis pas arrivé parce que c'était 2 ans trop tard. Mais au moins, j'ai tout tenté et je m'en veux pas. Et j'ai pu regarder les Jeux Olympiques à la télé sans aucun problème et pas à pleurer en me disant voilà, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si je m'étais. Voilà, au moins, il y a une fierté par rapport à si derrière ça, on réussit pas, on s'en veut moins, je trouve.
Mais ce qui est génial dans ce que vous dites, et c'est encore plus applicable à la course à pied qu'à un sport collectif, c'est que la course à pied, vous êtes face à vous-même. C'est-à-dire que vous fixez vous, vos objectifs, c'est vous qui vous entraînez.
Alors, et moi, ce que j'aime dans c'est de moins en moins vrai.
Ouais, mais moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que quand tu parles de cette fameuse négociation avec toi-même, c'est que souvent, ça nous est tous arrivé en tant que runner, quand on fait une séance difficile.
Eh ben, je vais te donner un truc de négociation.
Parfois, tu vois, on va se dire, ah, j'ai ce bloc qui est dur de 2 ou 3 km. Bon, le coach m'a mis une 30 de récup. Bon, je vais couper ma montre 10 secondes et puis je vais me rajouter 15 secondes.
Mais ça, tu fais ça ?
Non, mais.
Ah, mais oui, bravo !
Non, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, un copain m'a raconté
non,
que.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça nous est tous arrivé ce genre de choses. Ou alors, sur un bloc de 2 km, je vais choisir à côté de chez moi la
ça
partie
descend.
Du parcours la plus favorable voilà. pour être dans les allures que je me fixe. Ouais. Mais c'est une façon de se mentir à soi-même aussi. C'est-à-dire que.
C'est rattrapé.
Voilà,
c'est
ça rattrapé. Aussi, ça fait partie de.
Voilà, plus grosse négociation, tu vois, je vais prendre. Parce que là, on parle quand même à un niveau de running. Tu vois, on parlait des 70 millions. Tu sais que sur 70 millions, on est 16 000 sportifs de haut niveau en France. Bah, ils sont 16 000 sportifs de haut niveau. Donc, au final, c'est tellement infime.
Ouais, c'est ridicule. Ouais.
C'est tellement infime sur une population. Donc, ouais. on va parler plutôt au plus grand nombre.
Bien sûr, évidemment.
Ceux qui sont en capacité de courir et qui n'y vont pas forcément, qui manquent un déclencheur, qui ont envie d'y aller ou qui y vont tranquillement peut-être qu'une seule fois par dimanche et qui abandonnent ou qui se sentent dans l'inconfort ou qui vont se dire « Ah tiens !» On est au mois de mars, Buddy Summer, ça va arriver, t'as compris, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Ouais,
peu
vrai.
Importe, je te
ouais,
juge pas, vas-y.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Par contre, tu vois, la petite négociation qu'il y a à faire, parce que moi, je l'ai faite envers moi-même et je l'ai appliquée avec des gens qui font du running. Eh bien, on va dire, on va négocier déjà un chrono en fonction du kilomètre. Tu vois, on va se dire, allez, 1 heure, 10 km. C'est rond,
ouais.
60 minutes.
6 minutes au kilo.
Eh, c'est pas déconnant. Je pense que tout le monde est en capacité de pouvoir. C'est une grande marche rapide.
Ouais.
Allez, on va descendre un petit peu. On va prendre un 55 à la limite. 50-55. Eh bien, au lieu de me dire, je pars courir 10 km, qu'est-ce que je fais ? Je pars courir 55 minutes, 60 minutes. Ben, c'est deux choses différentes. Parce que le jour où je suis bien, les 10 km, je vais te les faire en 50, 49, 48. Puis le jour où je ne suis pas bien, je vais te les faire en 73. Et là, je vais avoir le sentiment de déception. Par contre, si j'inverse le truc et je dis « je cours pendant 55 minutes et je ne regarde pas le kilomètre », je ne suis pas dans la phase de déception du nombre de kilomètres que j'aurais dû faire.
Oui, parce que la durée est la même.
Parce que la durée, c'est la même.
Eh oui.
Et ça, c'est une forme de négociation en fonction de ce que tu es en capacité de faire.
Exactement.
Donc, quand tu fais ta programmation amateur, je dis bien amateur, c'est « je suis en capacité à aujourd'hui de courir 55 minutes. Je m'en fous des kilomètres. »
Ouais.
Je pars 55 minutes.
Mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis. Parce que
c'est très marrant, mais c'est super sérieux. Surtout.
Non, mais il est sournois, le coach Johan Durand, et beaucoup de coachs le font. C'est que dans ses séances d'entraînement, il met que des minutes. Il met jamais de distance, en fait. Et c'est ça le truc.
Et oui,
ils font que des minutes.
Mais c'est pour ça qu'après, quand on va aller un peu plus loin, moi je suis un fan inconditionnel des fartleks. Donc moi je cours que comme ça aujourd'hui. Ça fait des années et des années. Il y a toutes les improvisations possibles, les sensations possibles, les négociations possibles.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand tu te dis, je me suis reposé 30 secondes de plus là sur la minute, mais quand tu sais que l'effort que tu as récupéré, il va falloir que tu te le cognes d'après, sur le même temps, tu te dis, alors attends, là je vais négocier, parce qu'en fait, je vais peut-être réduire mon temps de récup pour réduire mon temps d'effort. Donc en fait, tu es toujours dans une négociation. Tu es toujours dans une négociation, parce que de toute façon, tu es envers toi-même.
Ouais.
Mais je reviens sur la négociation individuelle. Ça dépend de ton objectif. S'il est vraiment puissant, et c'est pour ça que j'invite tout le monde avant de se projeter, de faire des préparations, des organisations, absolument un objectif très clair.
Ouais.
Et ça, on revient sur les
et accessible.
Alors, là, on revient sur le smart, le temps, la difficulté, accessible mais assez difficile pour que tu sois pas dans la situation d'échec si c'est trop gros. Voilà.
Exactement.
Il y a plein de mécanismes à mettre en place, des grands mots. Moi, j'ai envie de dire, déjà, c'est en amont, c'est la prise de conscience de.
Ouais.
Que tu ne peux pas faire tout au hasard. Ça y est, c'est fini. Les phénomènes des années 80, c'est fini. Alors, je parle de toutes les disciplines. Avant, quand tu avais un réel talent, cela suffisait. Aujourd'hui, les talents sont partout et dans toutes les disciplines. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la somme des talents et la personne qui va ressortir un petit peu ? Je crois que c'est une meilleure préparation. Donc, dans l'invisible et le visible. Donc, dans le visible, forcément, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'athlétique, de ta je vais même te dire, de ton entraînement, et après de l'ordre de l'invisible. Donc on parle de la nourriture, du sommeil,
même
on en parle.
L'hygiène de vie.
On en parle peut-être pas assez, mais le smartphone. Tu vois, le smartphone, c'est un outil qui est ultra incroyable, mais par contre, ça devient quelque chose qui te perd.
Bah, surtout chez les nouvelles générations. Toi, tu l'avais avec les jeux de
football. Ouais, mais les nouvelles générations, en fait, si tu veux, moi, je trouve qu'ils peut-être qu'ils l'utilisent différemment que nous, mais c'est pas une génération perdue pour moi par rapport au smartphone. Ce qui est assez paradoxal. C'est que moi, j'invite toujours, en tout cas le plus possible, mes enfants à aller rechercher de l'information. Le smartphone est un outil incroyable pour chercher de l'information, pour s'instruire. Après, il peut être aussi ludique. Mais s'il devient plus ludique qu'instructif, bon, bah, au final, ça ne sert à rien.
Bien sûr.
Mais moi, je vois aujourd'hui, je ne sais plus qui a sorti ça il n'y a pas très longtemps, là, le meilleur coach du monde, ChatGPT, sur une programmation.
Ah bah tiens, on a fait un épisode dédié.
Je sais, j'ai regardé. Enfin, j'ai écouté aussi. Mais en fait, c'est quand même un truc incroyable. Parce qu'en fait, ce n'est pas la réponse qui est importante, c'est comment tu vas la formuler, la question. Donc, plus tu as de lexique d'entraînement, plus tu as de lexique de préparation, plus tu vas être... Et tu te connais.
Ouais.
Plus tu vas être fin dans ta question et elle pourra être d'autant plus personnalisée et personnifiée et plus adaptée à toi-même. Et c'est là où on arrive sur la négociation. Parce que si ChatGPT, tu lui demandes simplement de lui faire un programme, c'est super, tu lui dis ton objectif, c'est le 22 mai.
Voilà, 10K. 22
mai, je fais un 10K, voilà, je pars de zéro. Okay. Ouais. J'ai tant de points en trop, là, il faudrait que je perde un peu, je fume des clopes, je mange que de la viande, je bois du whisky coca, ça va être réglé. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Bon, t'as compris que les premières choses qu'il va dire, il va dire, bon, t'arrêtes tout, mais surtout, t'arrêtes surtout ton objectif, c'est mort.
Voilà, c'est ça.
Non, en fait, c'est, il va négocier, parce que tu vas lui mettre les paramètres. Mmh. Donc, il va négocier déjà avec tout ce que tu lui as mis. Mais après, tu vas lui dire, oui, mais j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie aussi de perdre du poids, ça sera l'occasion, j'ai envie de me faire plaisir. Donc là, il va peaufiner son programme. Mais ce qui est incroyable, c'est que lui, il n'est pas figé. C'est que si toi, tu es feignant dans ton débriefing, parce que c'est là que c'est intéressant, parce que là, on parlait de l'avant, pendant et après, mais ton débriefing, pour moi, l'une des meilleures préparations, c'est le débriefing d'après.
Ouais, mais c'est ce que tu peux te faire avec toi-même, hein, d'ailleurs.
Exactement.
Comment tu analyses ton échec ou ta réussite.
Exactement. Ouais. Et c'est là, en fait, si tu utilises ChatGPT pour faire ton programme, bah, tu vas faire ta première course et tu vas dire, bah voilà, j'ai fait ça, par rapport à ce que tu m'as dit. Ah, tu te rends compte qu'il va devoir reprogrammer, lui, très rapidement.
Ouais.
Mais ChatGPT va plus vite, en fait, qu'un coach, mais qu'un coach est capable de le faire.
Ouais, c'est ça.
Et il va avoir une autre approche qui sera le plus là, dans le sens, voilà, dans la perception, parce que lui, il sait peut-être que tu peux aller un peu plus loin.
Ah ben ça, c'est...
Tu vois, voilà,
exactement. C'est le cœur de l'épisode qu'on a fait récemment, d'ailleurs, avec Anthony Morel. Johan, tu souscris à tout ça. C'est vrai que l'analyse aussi des perfs et des résultats, réussite ou échec, c'est une solution pour la suite et pour l'avenir aussi.
Ah ben complètement, ouais. Si tu as cette capacité à analyser, à te dire pourquoi ça n'a pas marché, à bien gérer aussi les moments difficiles dans des prépas, et ça c'est quand même super important pour en plus être capable de rester motivé. C'est ça qui est dur dans les prépas marathon, dans les moments difficiles. Là, par exemple, pour ceux qui font le marathon de Paris et qui nous écoutent, ils sont au cœur de la prépa.
Ouais,
C'est même la fin de prépa où tu n'en peux plus. Alors là, les beaux jours arrivent, donc c'est un petit peu mieux pour courir, mais tu es fatigué, tu as des tensions un petit peu partout.
Mmh.
Et donc là, il faut être en capacité quand même à pouvoir se remobiliser et à rester motivé, même quand c'est dur, pour l'objectif. De garder cette carotte de l'objectif en tête quand même.
Et juste parce que moi je voulais ajouter un conseil concret à tout ce qu'on dit, parce que ça fait partie aussi, je trouve, de la préparation mentale. Là, on parlait de gérer la pression d'un objectif, etc. Le cas concret dont on parle assez peu, même ici ensemble, Johan, du moment où on se retrouve à l'arrivée sur la ligne de départ. On est là dans le sas, sur la ligne de départ et tout.
Déjà, est-ce que tu as choisi le bon ballon?
Et c'est-à-dire,
bah, est-ce que tu t'es bien mis dans
dans bon
la bonne
sens.
Ligne?
Oui, oui,
dans
ça, bon alors, ça c'est autre chose. Mais moi,
excuse-moi, je dis toujours ballon parce que moi je vois toujours le ballon.
Et voilà, c'est ça.
Ou la flamme.
C'est ça la différence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois trop, et moi je l'ai encore vu à Valence en décembre quand on a fait le marathon de Valence, Johan. Il y a trop de personnes qui bouffent du jus ou de l'énergie à se déconcentrer dans le sas de départ, par exemple.
C'est normal.
Ouais, mais moi je trouve ça fou en fait.
Mais pourquoi
Je trouve que, en fait, quand tu entames une discussion avec quelqu'un et que tu sors un peu de ton objectif que tu as préparé pendant des mois et des mois, bah, je trouve ça un peu bizarre, en fait.
Mais,
tu vois,
mais
le
moi,
truc de dire, reste concentré.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais non, mais t'es au moment véridique où tu vas
penser. Toi, t'as la chance d'être invité à chaque fois que tu cours et t'as des passes droits avec les dossards RMC. T'es invité partout. Cherche pas, t'es invité partout. Toi, tu passes par les petites portes.
Presque.
Imagine, sur un marathon où t'as 10 000 personnes, toi, tu fais partie des 400 qui sont devant. On schématise, voilà. Ouais. À la limite, même moi, je vais même te dire, je peux m'inclure là-dedans. Je vais au marathon de Paris, je suis même pas prêt. Je demande un maillot à je sais pas qui. Ouais. Je pense que je peux en avoir un dossard. Bon, bref. Le problème, c'est qu'on parlait de préparation. Donc, tous ceux là qui ont préparé leur course ont toujours préparé leur lever, alors leur coucher de la veille, leur phase de récupération, leur temps de trajet entre leur hôtel et... Ouais. Et puis, bah, ils arrivent là, qu'est-ce qu'il faut que je mange ? Tiens, je vais avoir tant. Mais en fait, ils n'ont pas prévu un truc, en fait, les mecs. Qu'est-ce que vous allez faire ? Le cul par terre, et s'il pleut, à un moment donné, pendant 2 heures que vous attendez que ça parte ? Vous faites quoi pendant les 2 heures ?
Ouais, c'est un peu mieux organisé aujourd'hui. Hein. T'as plus de 2 heures dans la salle de départ.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'organisation. Mais pour différentes raisons, tu te retrouves là et 2 heures, tu te retrouves là.
Ça bouffe du stress. Hein.
Ah, mais ça, c'est sûr. Tu bouffes du jus.
Et tu bouffes du jus pour toi. Ouais. Mais comme les autres, en plus, en face de toi, ils sont mal préparés comme toi, bah, tu sais que c'est transmissible, ces trucs-là. La pression, la mauvaise pression est transmissible. L'autre, il est en train de se chier dessus. Ouais. Toi, t'es, bah, là, tu fais « Ah, merde, ah, je pensais... » Donc, en fait, tu dis... C'est le moindre détail, la prise d'information, le demander aujourd'hui sur des réseaux sociaux, sur des chats, sur les différents... Tiens, comment ça se passe au fait ? Tiens, tu me parlais de Valence, tu vas à Paris. Tiens, à Paris, tiens, je suis dans tel sas. Et ça sert aussi à ça, les réseaux sociaux, hein, ces communautés. Ouais. Bah tiens, je suis dans tel sas, je dois accéder par telle porte. Vous pensez que je vais attendre combien de temps avant de partir ? Et puis, il y a un truc, c'est au moment où ton sas part... Il y a combien de temps que tu marches ? Il y a combien de temps que tu es en sous-régime jusqu'au moment où tu sois en plein régime ? Mais on parle de la majorité des coureurs.
Non,
là,
mais c'est vrai, c'est vrai.
Donc en fait, tout ça,
et
le détail...
Et
t'oublies
la problématique toilette. c'est autre chose dans les...
Bah, le bouchon,
c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Mais comment ça se passe dans les élites, d'ailleurs, Yodu ? Est-ce qu'il y a ce truc de chacun est dans sa bulle ou est-ce que non, il y a des bavards qui viennent te perturber comme ça avant le départ, le coup de pistolet ?
Alors, t'en as toujours quelques-uns qui parlent, qui évacuent leur stress en parlant, tu vois, qui vont discuter avec... généralement, ils essayent de trouver un mec avec qui parler, tu vois. Et comme 95% des athlètes ont un gros casque sur les oreilles et sont dans leur bulle, tu les vois parler à un portier, à un coach, à n'importe qui. Mais sinon, après, non, nous, on est quand même ultra focus et on t'apprend à être concentré sur toi-même. Alors, du coup, bah, t'es vachement plus dans ton dialogue intérieur avec ta musique et tout, et que t'enlèves, moi le premier, hein, sur les grands trucs. Même des fois, enfin, je l'avais raconté ici, mais des fois, j'ai les écouteurs, mais j'ai pas de musique. C'est juste que j'ai pas envie qu'on m'emmerde et je les garde, et juste pour pas qu'on
parle. Arrête de faire ton footballeur.
Non, mais clairement.
C'est bon, ça.
Mais ça, c'est propre à chacun. Et après, tu en as d'autres qui aiment discuter. Hein. Ouais. Ça, c'est propre à chacun. Mais tu dois connaître ta routine et ce qui te correspond le mieux ce qui te va bien. Ouais.
Bon, les routines de performance, ça, c'est un sujet. Ça, c'est le sujet d'un podcast, les routines de performance.
Et tu reviendras pour en parler. Ah,
parce
d'accord.
que ça, c'est un truc qui peut te sauver la perf.
Ça, c'est sûr.
Ah bah... Ça peut te sauver un match, ça peut te sauver une compète, ça peut te sauver une course à pied. Ça peut vraiment te permettre à un moment où tu es le plus mal de te recentraliser, de te remettre focus, de retransmettre. Et je reviens. Alors, donc j'avais dit que on en parlait tout à l'heure.
C'est la fin, mais vas-y.
Mais Balerdi hier soir.
Oui. Et vraiment lui... Donc on va ouvrir un débat Balerdi dans RMC Running.
Non, mais Balerdi, où je parle d'une séance de pénalty, ça ne se prépare pas comme l'entrée dans un match. Ouais. Et donc, s'il y a de l'excitation, s'il y a trop... Et donc, je reviens au SAS, au départ des SAS. Mmh. Donc là, on arrive. Oui, tiens, tu vois, tu vas être le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 à tirer et tout. Puis, il y a de l'excitation autour de ça. Tu n'as pas de moment où tu es seul. Tu peux pas être focus.
Te reconcentrer.
Mais non, tu ne peux pas. Tu as tellement d'excitation autour de toi. Donc, en fait...
Il y a trop de distractions.
Exactement. Donc, en fait, tu as toutes tes émotions qui arrivent. Et puis là, tu te retrouves au moment où tu es le plus seul, où tu devrais être le plus serein. Bah, tu te retrouves où ça pète dans tous les sens autour de toi.
Ah ouais.
Alors, je ne dis pas que c'est de la cause de ça qu'il rate. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a quand même des études qui sont faites sur une bonne attitude par un moment clé. Et les routines de performance te permettent de te remettre focus à ton objectif.
Et bah voilà. Donc, vous écouterez s'il est aussi bon dans le débrief de Rotten sans flamme. Donc, de ce...
Bah, je suis le meilleur parce que je suis payé de l'autre côté.
Voilà, exactement. Allez, tout de suite, on passe au bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Martin Lebars nous rejoint. Salut Martin.
Salut l'équipe.
Martin, sois le bienvenu. Bonjour. Tu fais partie de l'organisation du Lions Paris 9 Run qui aura lieu à la fin du mois de mai. Une course parisienne à 10 km. Est-ce que tu peux nous en parler et la présenter s'il te plaît?
Avec grand plaisir et déjà merci beaucoup de mettre à l'honneur notre course.
Avec plaisir.
La Lions Paris 9 Run, on est une course historique à Paris, une course qui a été arrêtée malheureusement au milieu des années 2010 et qu'on a repris en 2019 avec historiquement assez peu de coureurs. Et aujourd'hui, on est assez fiers parce qu'on va avoir plus de 3000 participants en 2026. Donc, on est très contents. C'est une très belle course parce que on est dans les plus beaux endroits de Paris, mais surtout, on est une course 100% solidaire. Et donc, on est très fiers.
Parle-nous du parcours, parce que là, on est, comme tu dis, dans les beaux coins de Paris. Par où ça passe alors?
Ouais. Le départ est sur les grands boulevards, vers Richelieu-Drouot. Puis après, on passe vers les Galeries Lafayette, on remonte vers la Trinité, vers Notre-Dame-de-Lorette. On passe après vers le haut du 9e. On a un sacré dénivelé sur ce parcours. Et on passe devant les plus beaux monuments du 9e. Et notre médaille symbolise ces monuments chaque année.
Voilà, on n'est pas là pour un parcours à perf, mais pour se faire plaisir et pour les yeux et pour la bonne cause, quoi. C'est une bonne course d'entraînement, ça, si on veut se tester.
Exactement. Donc on a trois parcours, on a un 10 km, un 5 km qu'on ajoute cette année, on a une foulée des familles. Donc tout le monde peut y trouver son compte pour les sportifs, ceux qui veulent se remettre en jambes, ceux qui veulent passer un bon moment et ceux qui veulent courir en famille.
Exactement, ça s'adresse à tout le monde, que vous visiez un chrono ou pas. Et donc c'est le 31 mai, a priori la météo est plutôt favorable à cette période-là. Je précise que tous les bénéfices sont reversés à une association. Hein. Est-ce que tu peux nous en parler? Le fonds Hélène Keller, qu'est-ce que ça représente? C'est pourquoi exactement?
Exactement, donc Hélène Keller, c'est une femme américaine qui a réussi à être diplômée malgré de nombreux handicaps. Donc on a créé le fonds Hélène Keller pour œuvrer pour l'éducation dans le handicap. L'année dernière, on a versé un peu moins de 30 000 euros à nos bénéficiaires qui sont de tout ordre. Et cette année, on va avoir, je pense, entre 40 et 50 000 euros qui seront reversés. Donc ça fait à peu près 1,5 km par kilomètre parcouru pour chacun des coureurs. Donc voilà, on est content.
Et voilà, la bonne cause en plus qui s'ajoute comme ça à cette belle épreuve. Le 31 mai, si vous êtes sur Paris, vous voulez disputer un 10 km dans les plus beaux coins de la capitale, n'hésitez pas. Et Martin, merci beaucoup d'être venu. Je précise qu'on fait gagner 3 dossards dans RMC Running. Donc si vous voulez participer, vous allez sur Instagram et sur Strava et on s'occupera de tout ça. Merci Martin, bon courage pour l'organisation.
Merci, un grand merci.
Avec plaisir, à bientôt.
Bon, c'est maintenant qu'on passe les courses de l'année, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris non plus.
Vas-y, tu veux placer une course?
Il n'y a pas que Paris, il y a un petit bike and run qui se fait à l'hippodrome.
Bike and run.
Ouais, en famille, à Bordeaux.
À Bordeaux,
sur l'hippodrome.
Chez Yvan Durand, ok.
Ouais, on se fait ça avec les familles, les vélos, les enfants. Franchement, c'est le. Toi, je vais même te dire.
C'est quand alors?
C'est le 26 avril, à l'hippodrome.
Bike and run, il faut trouver un mec de sa taille, parce que si.
En général, sur le vélo. Alors, moi, je prends la plus petite de mes trois enfants parce que sinon c'est mort, mais en général je fais ça avec ma fille.
Et puis, c'est sympa. C'est quoi cool, la distance?
Kiff. Non, mais c'est entre 5 et 10 bornes, tu vois, en bike and run, en sachant que normalement tu ventiles, tu échanges.
Ouais.
Et oui.
Mais toi, tu fais que du run.
Parce que le vélo de ma fille, il est assez petit. Donc je me suis fait avoir l'année dernière. Mais je pense que là, c'est Benoît Maitré-Molinas qui est parrain.
Ah, on le salue d'ailleurs.
Et donc, quoi, des petites courses de running comme ça, qui sont assez sympas à faire.
Magnifique, le 26 avril. Stevie, c'était un plaisir et un bonheur de te retrouver dans les RMC Running.
Merci.
On te retrouve dans Rotten sans flamme régulièrement.
Bien sûr, et puis je vous dirai encore une chose, faites les choses sérieusement, sans vous prendre au sérieux, et soyez toujours au taquet.
Et voilà, ça c'est mon Stevie. Merci à Yoann Durand pour tous ses conseils aussi. Et moi, mon conseil, c'est quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.